10h30 dans le bureau de Par Jupiter.
Oh là là, je suis à la bourre, moi. C'est bon, Charline n'est pas là?
Comment? Bah non, non, non. Elle est juste partie à la cafette.
Ah merde, merde.
Ah bah
merde.
Ouais, comme tu dis. Puis t'as intérêt à avoir une méchante excuse, mon pote.
Voilà, t'inquiète, je suis le roi de la manipulation. Moi, je vais te l'enfumer, tu
oui,
vas voir ça.
Guillaume, mais qui va enfumer qui? Salut, alors
bah oui, Guillaume, qui va enfumer qui? J'ai pas bien compris.
Non, moi, je parlais de moi parce que figurez-vous que ce matin, j'ai déjoué une tentative d'enfumage sur ma propre personne.
C'est-à-dire?
En fait, littéralement, il y a des gens qui ont essayé de mettre le feu devant chez moi.
Le feu devant chez toi, c'est-à-dire?
Bah oui, c'est-à-dire. Non, parce que c'est grave, ça. Faut appeler les flics.
Non, pas besoin, parce qu'en fait, c'est juste mon paillasson qui fumait un peu.
Ouais, il n'y a pas que ton paillasson qui fumait dans cette histoire.
Ah si, il n'y a pas que moi. Non, y a pas,
bon, ça suffit, le carnaval, Guillaume. Hein. Il t'est rien arrivé du tout, t'es arrivé en retard, tu brodes un récit.
Oui, c'est vrai. C'était pas mal en impro quand même, non?
J'en ferai pas non plus un sketch de conférence de rédaction.
Et comme moi, j'ai lu le livre de l'invité, qui est très précis sur la fabrication des récits, justement, je t'ai vu venir de loin.
Ouais, enfin, à ce niveau-là, moi, sans avoir lu le livre, je t'aurais vu venir aussi.
Ah, bah, très bien. Alors, pendant que j'irai déjeuner, n'hésitez pas à lire le livre de Johan Chapoutot. Hein? Merci bien.
Mais non, tu vas déjeuner où, toi?
Avec qui?
Bah oui.
Avec Bruno Retailleau, au Sénat, pour discuter du futur de Radio France.
N'importe quoi.
Non, c'est pas vrai, tu nous mets sur une fausse piste.
Jamais tu déjeunerais avec Retailleau, c'est pas possible, c'est une blague.
T'as raison, maintenant je suis avec Michel Barnier.
Mais attends, mais c'est quoi la
Et comment on fait pour savoir maintenant?
Bah, savoir si mon récit est construit, si c'est un storytelling, bullshit,
bah
c'est
oui,
ça.
Bah oui, on sait pas, c'est quoi?
Bah la réponse est dans le livre. Allez, salut. Qui d'ordine, qui lit, déjeune, comme on dit chez les historiens. France Inter, bienvenue au guichet de la blague. Et voici le proverbe du jour. Pierre qui roule n'a plus les moyens de s'arrêter à la pompe. Voici le sommaire. Depuis que l'extrême droite s'est ouverte à la concurrence, en France, le RN, la maison mère, a encore changé de façade. Et voici la nouvelle Marine Le Pen, féministe, faisant visiter son QG pour parler déco. Et on apprend qu'elle vit en coloc avec une pote et ses chats. On l'apprend tout ça grâce à Karine Le Marchand.
Quand je rentre chez moi, je ne retrouve que trois chats affamés et Bob.
Qui est Bob?
Ma pomme de douche.
Mais ça, c'était Juliette. Hein.
Oui,
il y a le rire du son et le rire de Juliette.
Conclusion de la COP26. Encore et toujours Jacques Chirac avec la maison qui brûle. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord sur l'urgence pour éteindre l'incendie. On fait quoi alors? Voilà ce que les peuples demandent aux dirigeants et eux de répondre.
Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez.
Le CV et la lettre de motivation, c'est un récit de soi amélioré, telle une photo de vacances sur Insta. Avouez que dans ce cas, on est capable de faire pire qu'un politique, niveau langue de bois, storytelling ou bullshit.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder, donc j'ai pas vraiment le choix.
Voilà. C'est comme ça qu'elle a postulé, Juliette Arnaud.
Et pour nous entourer, Charline, une équipe de gens qui pratiquent, eux aussi, de grands récits. Lui s'est donné pour mission de nous raconter toutes les histoires de gens qui sont devenus musiciens alors qu'au départ ils avaient autant de chances de le devenir que lui des disques jockeys à rires et chansons. À rires et chansons, voici Djoubaka.
Bonjour Julien, c'est exactement vrai ce que vous dites. Hein. Je vais le démontrer tout à l'heure et vous parler de Tina Mouni. Voilà, on en reparle.
Justement, je me disais, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu.
Et puis les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais les gens heureux ne sont pas majoritaires sur les trottoirs de France. Heureusement pour lui, malheureusement pour eux. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de l'entrée du pronom YEL dans le dictionnaire. Parce que la résistance s'organise, même s'il n'y a plus l'armée obligatoire qui était un haut lieu de culture, je rappelle.
Mais bien sûr, oui, à l'armée, on se culturait.
On se culturait, bien sûr. Beaucoup de culturation à l'armée.
Et voici celui qui
Non, parce qu'il en manque un.
Ah bah oui.
Ah, il est là, regardez-le, il est en salopette. Qui aurait cru que les histoires...
Qui aurait cru que c'était le plombier, en fait. Mais non, c'est le chroniqueur.
Non, c'est celui dont je vais parler. Donc, qui aurait cru que les histoires d'un punk à chien adepte de fromage fondu et qui a pour gimmick coulos-coulos rassemblerait autant d'auditrices et d'auditeurs? Personne, lui-même, va d'étonnement en émerveillement. Bonjour Emmanuel Lompré.
Bah salut.
De quoi? Comment vous allez nous étonner aujourd'hui?
Bah j'avais écrit une chronique, mais là j'ai plus trop envie de la faire.
Oh, pardon mon chéri, excuse-moi. On t'entendra tout à l'heure. Voici celui qui va remettre l'actualité en perspective. Vous êtes
Johan Chapoutot.
Je l'ai pas oublié lui.
Comme par hasard.
Charline Van Necker. Jules de Carnot.
Par Jupiter.
Yoann Chapoutot, bienvenue. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'Allemagne et de la modernité occidentale. Et vous publiez Le Grand Récit, Introduction à l'histoire de notre temps. C'est paru au PUF, les presses universitaires de France. Vous y abordez la manière dont on raconte l'histoire, la grande histoire bien sûr, et comment les doctrines politiques la façonnent aussi. Alors vous êtes universitaire, docteur en histoire, ok. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ce qui est écrit dans votre livre?
C'est parce que les historiens travaillent sur le vrai. Ils enquêtent selon une méthode tout à fait spécifique de croisement des informations, de vérification de l'authenticité des documents, et ils ont une éthique du vrai.
Mmh, voilà. Oui. Question qui peut paraître marrante, mais qui en réalité touche au cœur de l'ouvrage, n'est-ce pas Juliette?
Oui, alors c'est un livre passionnant, vrai, je le suppose, mais aussi remarquablement écrit. Alors que vous étiez excellent en maths, vous avez choisi, à la consternation générale, dites-vous dans ce livre, 30 ans plus, de choisir les lettres. 30 ans plus tard, en gros, est-ce que vous pensez que c'était la meilleure décision de votre vie?
Ah oui, très clair. Enfin, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, une des très bonnes décisions, oui, parce que j'avais envie de faire des lettres, de l'histoire, de la philosophie. Je me posais des questions qui ne pouvaient être formalisées, thématisées, et travaillées que par ces disciplines-là, au fond. Mais j'ai adoré faire des maths, j'ai continué à en faire, j'en refais d'ailleurs, et j'en suis très heureux. Mais voilà, j'avais envie de consacrer mon temps à quelque chose de vraiment utile, c'est-à-dire la littérature, l'histoire et la philosophie.
Vous et le fascisme, je vais le dire brutalement, mais vous et le fascisme, c'est une longue histoire d'amour, c'est même votre première... mais c'est votre première histoire d'amour, puisqu'en 1995, vous êtes mineur, vous avez 17 ans, vous gagnez le concours général d'histoire.
C'est un fou de fascisme.
C'est un passionné de fascisme. Quel poids ça a sur la psyché, ça?
J'avais même 16 ans à l'époque. Mais oui, parce que le concours général d'histoire, on le passe en première. Bon, il se trouve que c'était assez opportun comme sujet. Le sujet, c'était un ou des fascismes dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et on avait 6 heures pour disserter là-dessus. Et c'était en l'année où des municipalités du sud de la France, dont je suis issu, sont passées au Front National. Il y avait Marignane, il y avait Orange, il y avait Toulon, et puis Vitrolles, exactement, qui était juste en face de chez nous. Hein. Moi, j'étais à Martigues, de l'autre côté de l'étang de Berge, les communistes, et en face, donc, le FN. Et je trouvais ça quand même assez curieux, hein, cette espèce de concordance des temps, être amené à réfléchir sur le fascisme. Et oui, et de fait, j'en ai fait un petit peu. Alors je dirais pas ma vie, mais en tout cas une partie de mon activité intellectuelle, parce que j'ai travaillé sur le nazisme ensuite.
Oui, sauf qu'il y a eu un moment, ça vous a pesé.
Oui, c'est assez pesant, oui, bah parce que c'est, enfin, vous êtes amené à faire une colocation avec des gens qui ont assez peu d'humour, hein, ce sont des gens assez littéralistes, les fascistes et les nazis, qui ont assez peu de distance vis-à-vis d'eux-mêmes.
Bon, il y en a des biens quand même, hein. Faut pas faire d'amalgame non plus.
Himmler faisait de très bonnes blagues.
Oui, très bonne polenta. Ouais. Mais bon.
Et, et ces gens-là, je vous laisse responsable de vos propos, hein, moi je peux pas.
Surtout n'intervenez, laissez-les parler.
Oui, non mais abstention prudente.
Oui.
Mais donc c'est des gens assez littéralistes et qui ont deux ou trois idées qui tournent, si vous voulez, en disque. Et au bout d'un moment, c'est assez lassant. Et puis c'est un univers atroce, tout simplement. Et moi, mon petit choc qui m'a fait me distancier un petit peu de tout ça et puis travailler sur autre chose, c'est la naissance de ma première fille. Parce que quand vous êtes face à la vulnérabilité absolue d'un bébé qui arrive comme ça et qui a besoin de tout, eh bien, vous prenez conscience charnellement de l'horreur que ces gens-là ont commise.
Alors justement, à propos de l'horreur de ces gens-là, il y a un chapitre donc qui s'appelle « Nazisme et fascisme ». Et je vais vous lire, vous citer si vous permettez. « Le Reich doit permettre avec radicalité un ennemi, doit combattre avec radicalité un ennemi immémorial qui surgit toujours sous des apparences renouvelées, mais avec un objectif immuable. Nier la supériorité germanique au nom de l'universalisme et de l'égalitarisme, chrétien ou marxiste, fédérer l'allié des ratés, des tarés, des malades et des métis contre l'élite germanique. Ce récit est opérateur d'intelligibilité redoutable qui permet de tout expliquer et de tout comprendre. Je vous cache pas que là, moi, à cette page précise, ça m'a fait un petit peu un truc avec notre époque.
Oui,
le récit opérateur d'intelligibilité redoutable qui permet de tout expliquer et de tout comprendre.
Oh, ça, c'est vieux comme, alors je dirais pas comme le monde, mais en tout cas comme l'histoire contemporaine. Le fait de vouloir réduire la complexité du monde et du déroulement de l'histoire à quelques principes simples. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une des raisons du succès du fascisme, du nazisme, que de tout ramener à un facteur explicatif simple. comme du complotisme aujourd'hui, hein, une causalité diabolique, unique, monofactorielle, bien identifiée, et sur le fondement de ce postulat-là, il y a un ennemi redoutable et c'est lui qui est responsable de tout, vous déroulez ensuite un récit tout à fait rationnel et très rassurant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte quand on est historien de ces périodes-là, la période nazie par exemple, c'est qu'il y a eu au minimum consentement, mais au-delà, adhésion, mais une adhésion active de très grandes masses de population, tout simplement parce que le nazisme apportait des choses aux gens. En termes cognitifs, il expliquait tout, mais en plus il offrait une perspective, et aussi en termes matériels, grâce aux spoliations, aux prédations, à l'économie de guerre.
Johan Chapoutot, votre ouvrage s'intitule Le Grand Récit, sous-titre Introduction à l'histoire de notre temps. C'est paru au PUF et on va en parler encore abondamment pendant l'émission parce que nous avons donc choisi des sujets qui y ramènent, bien sûr. Et puis on parlera de Marine Le Pen avec ses gentils petits chats et son joli QG sur un joli canapé. Restez avec nous, c'est par Jupiter. Au lit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai l'impression que derrière, ça se passe pas tellement comme je viens de le raconter. J'ai l'impression qu'il se passe un truc. Il y a un storytelling, il y a un bullshit, il y a un truc à débusquer. Heureusement, on est avec Johan Chapoutot. Tout va bien se passer, restez avec nous. Shine your gun. Shine your gun. Shine your gun right now. Shine your gun. Shine your gun. It's time for the showdown. I never want to hold the gun without the gloves upon my hand. Don't wanna leave the fingerprints on the murder weapon. One of them come, I'm gonna kill them dead. Two of them come, I'm gonna run them red. Without a trace, I'll send them to their beds. And another one dead. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun, rude boy. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun right now. Watch, I got my Glock on my waist. Watch, I got my Glock on my waist. You want to get acquainted to Betsy, or you want to meet my Glock Charlie? Yeah. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun right now. Shine your gun, shine your gun. Time for the showdown. C'était un gentil titre de Tricky et Frankie Riley, ça s'appelle Murder Weapon. Et voilà, voilà ce qui explique l'introduction. Ça, c'est un choix musical de Chewbacca, évidemment. On sent bien la petite touche Chewbaccaesque.
Oh oui, bien mais là, il y a des weapons aussi. Hein,
si, mais bien oui. Sûr. Johan Chapoutot est avec nous, historien, Le Grand Récit, paru au PUF, et pour l'entourer, Juliette.
Bien, Chewbacca, l'arme de la musique, Aymeric Lomprey. L'arme du rire et Guillaume Maurice Le Gainage.
Et le journal d'information.
Pas de problème, tout va bien sur France Inter. Ce sont des gens qui font de la propagande avec votre argent. C'est ça, France Inter.
Le journal de presque 17h17.
Bravo. Réjouissons-nous pour France Inter qui demeure la première radio de France et de loin.
J'ai un nouvel ami, Guillaume Maurice.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera...
Mais des audiences, hein, des audiences, bien sûr. France Inter a cartonné, c'est incroyable. On remercie évidemment toutes les équipes.
Non, mais ça va, les auditeurs s'en fichent de nos chiffres.
Mais non, mais je veux faire comme la matinale, moi.
D'accord, bon, allez. On parlera aussi de la victoire.
La victoire de par Jupiter, face aux concurrents, bravo. On remercie évidemment toutes les équipes.
On s'en fout aussi. Ah, bon, merci aux auditeurs, mais bon, voilà. Mais alors, on parlera de la victoire de David Linard à l'Association des maires de France.
C'est nul, on s'en fout. Je parlais des audiences, moi.
Et enfin, on parlera d'une personne en roue libre au micro.
Ah, bah alors là, on parlera des audiences de Léa Salamé.
Non, je parlais de vous, là, Guillaume.
Oh là là. Bon, allez, on commence par la politique.
Après un suspense incroyable, David Linard a été élu nouveau président de l'Association des maires de France.
Oh là 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 là, mais c'est incroyable.
Et c'est tout?
Ben voilà, je fais le taf, je rends l'information désirable.
Ok.
Voilà. C'est qui d'ailleurs, David Linard?
Alors, c'est le maire LR de Cannes et donc le nouveau président de l'AMF.
Oh là 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 là, c'est fabuleux.
Ok, on passe à la suite alors.
Génial.
La République en marche, le MoDem et les proches d'Édouard Philippe ont annoncé la création d'un mouvement commun en vue de la présidentielle qui s'appellera Ensemble Citoyens.
Attendez, parce que là, comment vous voulez que je rende l'information plus désirable que ce qu'elle n'est déjà finalement?
Oui, hein, ça, moi je ne sais pas.
Parce que là, il y a tout, la République en marche, le MoDem, les proches d'Édouard Philippe, jamais un pot pourri n'aura aussi bien porté son nom.
Bien sûr, bien sûr. Bonne excuse pour ne pas faire de vanne, j'ai très bien vu. Allez, près de Grande-Synthe, des policiers de la BAC ont sauvé 7 migrants de la noyade.
Ah bah voilà, d'accord. Bon, super, mais merci. Bon, alors, puisqu'il faut y aller, allons-y, je vais dire du bien de la BAC. C'est pas évident, mais oui, effectivement, des fois, la BAC fait
Attendez.
Quoi?
Parce que j'ai une autre info pour vous.
Ah.
À Montpellier, des policiers de la BAC ont frappé un homme alors qu'il était au sol et menotté.
Ah, bah voilà, là, soulagement. Là, on retrouve, c'est ma BAC sur ça. On retrouve, voilà, cœur avec un ton fin. Voilà.
On passe à l'épidémie de Covid. Gabriel Attal a annoncé que les vaccinodromes allaient reprendre du service.
Allez, comme par hasard.
Quoi encore?
Non, rien, c'est juste le mot vaccin, c'est un réflexe, mais à chaque fois je dis comme par hasard. Mais promis, j'ai rendez-vous chez un médecin dans 3 jours pour régler le problème.
D'accord, donc on évite de dire le mot pendant 3 jours.
Quel mot?
Bah, vaccin.
Comme par hasard. Ah bah d'accord. Je suis fatigué, Charles.
Mais moi aussi, vous me fatiguez. Allez, à propos, on apprend que près de 4 Français sur 10 croient à l'existence de conspiration.
Non, je crois pas, moi.
Hein? Mais si, enfin.
Non, je suis sûr que vous nous dites ça juste pour qu'on y croit, pour que nos croyances soient des conspirations, alors qu'en fait, c'est pas vrai.
Mais vous devenez conspirationniste, papa.
Ou alors, vous dites ça pour que je croie qu'il s'agit d'une conspiration, alors que c'est vrai, mais c'est pour me faire passer pour un conspirationniste. Et que je crois plus à mes idées en pensant que ce sont des complots. Non, mais,
vraiment, vous avez compris ce que vous venez de dire, là?
Technologie.
Google Maps indique désormais les lieux de faible influence aux internautes.
Ça, c'est intéressant. Alors, OK, Google, quels sont les lieux de faible influence en ce moment?
En ce moment, le lieu de faible affluence, c'est Europe.
Ah oui, ça marche, ça marche hyper bien.
Oui. Super. Et puis, un téléphone pour chien a été créé pour atténuer la solitude des animaux de compagnie.
Ah, c'est un téléphone à puce. Allez, les grosses têtes, on arrive, Faut bien les rattraper.
Et pour terminer, parce qu'il est temps que ça s'achève, un mystérieux brouillage des fréquences 4G et Wi-Fi a été détecté et neutralisé à Clermont-Ferrand.
Non, ça m'étonnerait.
Bah si, c'est une information vérifiée.
Non, la 4G à Clermont-Ferrand, non, ça m'étonnerait, Charlie.
D'accord.
On va quand même être un petit peu plus rigoureuse, je pense.
Voilà. Donc là, demain matin, j'ouvre la boîte mail. 42 mails de gens de Clermont qu'on embrasse.
Mais non, ils n'ont pas le Wi-Fi.
17h26, avec l'historien Johan Chapoutot, il y a un supermarché. Vous ne savez pas, ça, un supermarché qui vient d'ouvrir en face de l'épicerie des Le Pen. Super Z, vous savez. Alors, pour se démarquer, Marine Le Pen est devenue féministe et parle décoration intérieure avec des journalistes qu'elle a invités à visiter son nouveau QG. Grâce à la surenchère du concurrent, le supermarché Z, donc, on va se retrouver avec l'épicerie des Le Pen toute refaite avec une jolie façade. Marine Le Pen n'a pas besoin de s'accrocher au pinceau puisqu'il y a Karine Le Marchand qui tient l'échelle.
Regardez, ces photos, elles sont tellement mignonnes.
Ah oui,
là, c'est vous, petit.
Oui, c'était moi quand j'étais petit, ouais.
Super, avec ce petit vélo, là, sur ce tricycle.
Ouais.
Vous avez quoi, là, 16 ans?
Non, là, j'ai 4 ans et demi.
Et vous aviez déjà la moustache?
Oui, si.
Ah bah ça, c'est... Et puis là, votre papa... Ah, j'ai touché un point sensible. Ah, oh, j'adore quand c'est sensible, dites-moi.
C'est...
Vous allez pleurer? Si vous pleurez, j'aime bien, hein. Dites-moi. Votre papa, vous êtes ému, je le sens. Ça monte.
Et cette photo, c'est le jour où il veut m'apprendre à plonger.
Ah, et puis il ne s'est pas plongé, j'ai
dit. Oui, oui, il s'est plongé.
Et il s'est plongé.
Oui, oui, oui.
Bah alors, qu'est-ce que...
Et il n'y avait pas de l'eau.
Et alors
et ben, que... il s'est décédé sur le coup.
Oh, c'est pas vrai. Ah non, pas la mort. Moi, non, mais c'est... Ah, ça me montre les larmes, regardez, là. Ah non.
Arrête, non, c'est pas...
Ah non, mais je suis triste. Non, veux, je suis vilaine. Je suis vilaine. Oh, je suis vilaine.
C'est le Saturday Night Live dans sa version française, donc montée par Gad Elmaleh, ici avec Ahmed Silla. Et donc parodie de l'émission Ambition Intime sur M6, l'émission où récemment Marine Le Pen était interviewée par un canapé. Alors, il y a 5 ans, Yoann Chapoutot, on parlait encore de dédiabolisation. Parce que là, ce qu'on vient de dire dans l'élément, c'est que, bien sûr, il y a Éric Zemmour. Donc Marine Le Pen est devenue féministe. Elle parle décoration, tissu d'ameublement. Elle a des chats, elle vit en colocation avec sa pote, etc. Bon, c'est cool. Donc 5 ans, on parle encore de dédiabolisation. Donc ça, est-ce que... Parce que là, on est perdu, hein, Yoann. Est-ce que c'est déconstruire un récit, cette dédiabolisation, et voilà où on en est, ou c'est en construire un autre en surcouche pour en arriver là? Éclairez-nous, parce qu'on est perdu.
Bah, c'est compliqué, le Front National, depuis les années 80. Au départ, c'était assez simple, parce que c'était des nostalgiques de la collaboration, c'était des anciens Waffen-SS de la Charlemagne, etc. Ensuite, ça s'est complexifié dans les années 80, avec d'autres gens qui sont arrivés dans cette chapelle, d'autres représentants de la droite. Il y a eu des libéraux, voire des ultra-libéraux, d'un point de vue économique. Il y en avait qui étaient, au contraire, un petit peu plus interventionnistes. Et donc, c'est compliqué depuis le début, si vous voulez, cette histoire et ce positionnement idéologique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Zemmour, donc sur la droite du FN, permet de ripolliner encore mieux le FN, enfin le RN désormais, ce qu'essaie de faire Marine Le Pen depuis quelques années.
Mais là, le storytelling qui va jusqu'à, regardez, on a des coussins qu'on a récupérés des meetings, on a choisi du bleu, on a mis de l'alpaga.
Bon, c'est un jeu très classique.
C'est normal.
Non, mais oui, c'est normal. Vous savez, je vais vous confier quelque chose. Je ne sais pas si je dois le dire quand même à l'antenne. Bah,
personne n'écoute.
L'autre jour, je rentrais dans un café, comme partout dans les cafés, il y a les écrans plats énormes et il y a BFM TV. Et c'était le matin, je prenais mon café et là, je vois Marine Le Pen. Et j'ai eu un soupir de soulagement en me disant « Ouf, c'est elle, c'est pas l'autre ».
On en est là.
Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle a un discours
Là, vous dites c'est compliqué, mais est-ce que là, l'extrême droite de Marine Le Pen a pas mis la main sur l'innovation dans le récit? Parce que vous parlez aussi de storytelling, etc. Mmh. Là, elle est la première femme présidentielle à faire croire qu'elle est moderne parce qu'elle vit hors de la convention conjugale. Elle explique chez Karine Le Marchand qu'elle a hébergé une de ses amies il y a 5 ans, qu'elles ont finalement resté à vivre ensemble avec des chats, etc. Enfin, là, il n'y a pas plus moderne dans le discours politique aujourd'hui, finalement. Enfin, on doit le déplorer, mais c'est comme ça, quoi.
Non, mais elle est très forte. Et puis, elle sait très bien utiliser la publicité politique et le marketing politique. Ça, il n'y a pas de problème. Et je pense aussi qu'elle est un petit peu sincère. Parce qu'au fond, je crois qu'elle aime vraiment les chats et qu'elle aime bien faire la fête.
Et qu'elle héberge vraiment cette amie.
Et que par ailleurs, c'est une grosse fêtarde qui fait la politique sans...
Non, mais arrêtez, vous participez à ce storytelling, la messie.
Un petit peu. Non, mais au contraire, c'est rassurant. Parce que ça aboutit au débat.
Mais vous avez mis rassurant et Marine Le Pen dans la même phrase.
Elle a perdu clairement son côté sulfureux qui attirait pas mal les électeurs qui disaient on va voter pour elle comme ça, elle va tout raser et puis après on verra quoi.
Je vais vous faire une confidence, je suis belge, donc si vous voulez, ce genre de discours me sidère toujours parce que voilà, je réexplique toujours qu'il y a un cordon sanitaire médiatique en Belgique francophone et que le média est le responsable éditorial. Et d'ailleurs, on le voit avec le procès d'Éric Zemmour, il y a le responsable éditorial qui est jugé. Donc, j'ai du mal à comprendre comment les médias ne se mettent pas en danger avec cette responsabilité éditoriale. Bref, je viens de faire un édito, vous m'excuserez. J'ai fait du blacksplaining sur l'historien parce que je me suis emballée, je m'en excuse. Renvoie au livre, heureusement, de Yoann Chapoutot, que je considère aussi avec le grand récit comme une espèce de manuel de défense de tout ça, évidemment. Je vous charrie. Un petit peu de musique, puis on revient à votre livre, Yoann, parce que c'est important.
Là, ça va être moi, là. C'est donc là, il faut que je calme l'affaire. Bon, bah alors, parlons peu, parlons bien. Parlons de Tina Mouini. Voilà. Donc, son nom ne vous dit rien. Eh bien, j'espère que ça va pas durer longtemps. Tina Mouini, c'est une star au Danemark, mais attendons, c'est pas la Ragnaret tueuse barbare, hein. Attention, faut pas les confondre. Ça n'est pas du genre Wiking, Tina Mouini. Alors j'avais entendu.
Vous voulez pas les confondre.
Il y a quelques années, un rap chanté en danois, disque mis de côté, diffusé, et puis plus rien. ça arrive, hein. Et puis paf, comme de bien entendu, alors que je l'avais un peu oublié, faut bien dire, Tina Weini, elle revient dans les radars avec un nouvel opus. Opus, c'est pour pas dire disque plusieurs fois. Mais qui s'appelle Naki Yimba. Tina Weini n'a pas toujours habité sur la terre des Vikings. En fait, elle est née et elle a grandi au Kenya, dans un bidonville, à Nairobi. Et la seule chose qui semble avoir mis un sourire sur son visage à cette époque, c'est la danse et la musique. On lui a raconté qu'avant de savoir parler correctement, alors que ça c'est déjà pas évident, j'en sais quelque chose, mais assez parlé de moi, alors qu'elle avait déjà assez de jugeote pour imiter les chansons que lui récitait sa mère. Alors le bidonville de Dandora est situé à l'est de la capitale kenyane, c'est la plus grande décharge d'Afrique de l'Est, et c'est le genre d'endroit où la sainte survie n'est pas un vain mot, où tu l'as ou tu l'as pas. Et donc la mère de Tina décide de quitter cet endroit de putréfaction et de poubelle, et par la même occasion un mari violent, elle prend sa fille sous le bras, direction Danemark. Tina a 5 ans, et c'est dans ce nouveau pays qu'elle va grandir. Alors son envie de danse et chanter, c'est pas perdu comme ça sur les 10 000 km qui séparent le Kenya du Danemark, et elle va y pousser avec force. Visiblement, en fait, elle sait vraiment ce qu'elle veut, parce que gamine, avant de siffler sa 10e bougie, elle décide de se consacrer vraiment à la danse, et elle fait coexister dans ses pas, déjà, le kwassa kwassa et l'arabesque sans sourciller. Et puis, au mi-temps des années 2000, sa mère disparaît, sa fille prend son nom comme un talisman, et elle décide de chanter. C'est le chant qui prend le dessus. Et elle va devenir une vedette du Nord, qu'ici, bien sûr, on ne connaît pas. Alors, elle aurait pu, comme ça, se la jouer tranquille au coin du feu et des fjords, mais elle a cette double culture, un concept dont vous avez remarqué qu'il énerve certaines personnes en ce moment. Mais pour elle, c'est une chance. Il y a plus de portes à ouvrir, plus de possibilités. Et en plus de ça, elle ne s'enferme pas dans un genre du moment. Il faut que ça groove. Donc elle peut s'époumoner comme ça sur du hip-hop, du jazz, de la soul, du funk. En fait, elle brouille les pistes. Elle échappe aux étiquettes. Et puis, au détour d'une tournée, elle finit par débarquer à Marseille. Elle trouve que c'est pas mal là-bas et elle est tellement à l'aise sur le Vieux-Port qu'elle est restée 5 ans. Elle monte un groupe exclusivement féminin et c'est parti mon kiki. Et puis en mars 2020, elle fait le chemin inverse. Elle se retrouve chez cet autre pays ou qui l'a accueilli à Copenhague. Vous savez, 2020, mars, etc., Covid. Alors, on est en train de découvrir les uns derrière les autres, tous les disques ont été imaginés dans ce moment-là. Et c'est assez drôle parce que les différentes humeurs qui transpirent de ces albums ne se correspondent pas. Il y a eu vraiment des histoires très très différentes. Et le disque de Tina Weini est un hommage à une de ses amies disparues. Elle rappe, elle chante, on y retrouve vraiment la pulsion rythmique des musiques africaines. Elle partage le micro avec des musiciens et rappeurs kényans, tanzaniens, congolais. Et David Walters, que vous connaissez hyper bien maintenant, voilà, s'est occupé des sons et de la musique. Alors comme c'est pas la première fois que ces deux-là se retrouvent, on y entend vraiment une complicité de bon aloi. Alors ce disque est une sorte d'oscillateur de sons, et les chansons se suivent sans se ressembler. Et ça c'est bien, justement on va en écouter une, mais j'espère que je vais réussir à le dire. Ça s'appelle Ajeb Inaden. Come on, yeah. Baden, hein, c'est ça qu'elle dit. Hein. Alors le titre de l'album, c'est Naki Yimba, c'est plus facile à dire, et c'est distribué en France par Moduleur.
Merci Djoubaka. Et bien sûr, on met les informations sur notre page sur France Inter, évidemment, pour l'orthographe. L'historien Yoann Chapoutot est avec nous, qui publie le grand récit au PUF. Je vous ai piqué une minute sur le sujet Marine Le Pen fait du Valérie Damido, donc je vous la rends maintenant si vous voulez réagir, bien sûr.
Non mais j'ai bien vu que vous étiez contrariée, Charline, mais c'est parce que vous êtes une islamo-gauchiste radicalisée et que à votre micro, eh bien, on n'a pas la liberté d'expression, on peut même pas appeler à voter Marine Le Pen. Je trouve ça quand même scandaleux sur le service public.
Je le savais, bah oui.
Non, mais c'est juste pour dire que, en fait, quand on pose des questions sur le Front National ou sur Vichy, etc., vu ce que j'ai étudié, ce sur quoi j'ai travaillé, moi, c'est un peu de la petite bière, tout ça, vous voyez.
Oui,
donc j'ai du mal à voilà.
Je comprends.
C'est pour
tout
ça.
Tout à fait. Et on le comprend tout à fait en vous lisant, Yoann Chapoutot. Et on recommande chaleureusement votre ouvrage. Alors, pour lui, c'est de la petite bière, mais il la boit allègrement. C'est Guillaume Meurice.
Bon, eh bien, écoutez, l'heure est grave. La France a peur. La France a peur. La France est en danger. Oui, encore. Oui, oui, oui. Oui, ça vous fait rire. Ça ne me fait pas rire, Juliette Arnault. Un nouveau pronom vient de débarquer. Blabla autre chose.
Ça aussi, c'est un danger.
Yel. Voilà. Un mélange de il et de elle. Alors, je vous le dis, c'est plus terrible que la cinquième vague de Covid. C'est plus inquiétant que le taux de cholestérol d'Émeric Lompré. Peut-être pas. J'ai tendance à un petit peu exagérer. Mais en tout cas, l'heure est vraiment très, très grave. Trois académiciens ont été admis en réanimation. L'occasion de constater que deux d'entre eux étaient en fait déjà morts depuis longtemps. Yel a fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert cette semaine. Ah donc, le GIGN, vous inquiétez pas, est sur place. Le commandant Jean-Michel Blanquer a pris la tête de l'opération. Pour l'instant, la situation semble bloquée. Dans la France entière, je ne vous cache pas que c'est la stupeur. La stupeur a pris le dessus. Moi, évidemment, n'écoutant que mon courage, hein, finalement, bah, je suis allé à son chevet. J'ai rencontré ce matin des gens complètement perdus, complètement déboussolés.
La langue de Molière, de Corneille, de Racine, elle évolue pas, elle est quand même très bien.
Mais est-ce que la langue, c'est pas quelque chose de vivant ?
Mais ça, c'est pas vivant, c'est de la bêtise, franchement. Et j'espère que ça va pas passer.
C'est rentré dans Le Petit Robert, c'est dans un dictionnaire.
Ben, je vais vous dire, moi, je vais plus acheter Le Petit Robert, je vais acheter Larousse.
Allez, ben bien, on boycotte ! Allez, Nelson Mandela avec nous, là, ça, c'est un beau combat. Et attention, Larousse, hein, on t'a à l'œil, hein. Déjà qu'à la base, tu devais t'appeler Le Roux. Et que t'as féminisé ton nom, fais gaffe, la résistance s'organise. Bon, si on devait lire les textes avec le français de l'époque de Molière, tout le monde saignerait des yeux, on est quand même d'accord. Mais gardons le cap, les amis, malgré la stupeur.
C'est vraiment incompréhensible, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas qui décide des choses comme ça. De toute façon, c'est illégal, pour l'instant.
Ah, c'est dans Le Petit Robert.
Ah bah oui, Le Petit Robert, il faut le supprimer.
Oui, carrément.
Ah oui.
Ah ouais, est-ce que c'est pas un peu fort?
Non, pas du tout. Il faut le supprimer.
On peut faire mieux que boycotter. Il faut supprimer Le Petit Robert. Cancel Le Petit Robert. Vous remarquerez d'ailleurs que les gens qui luttent contre la cancel culture sont pas les derniers quand même à vouloir supprimer des trucs. Mais parce que là, bah, on n'a plus le choix en fait.
C'est le début après d'un enchaînement sur d'autres termes qui vont suivre et ainsi de suite, quoi.
Mais quel genre alors ?
Ah bah, je sais pas, tout ce qu'ils inventeront. Après, il va y avoir d'autres choses complètement incroyables, quoi.
Mais pourquoi ça vous fait autant peur ?
C'est votre question qui pose problème, déjà.
Ah oui, je devrais même pas questionner l'existence du pronom.
C'est sacré.
La langue française,
c'est sacré.
C'est
sacré.
Ah, pardon. Non, mais c'est moi. Je pose la question à la base parce que moi, je suis passionné de débats de qualité. Donc, dès qu'il y a un point médian, dès qu'il y a un hijab de sport, bon, ben voilà, ça m'intéresse. Mais je ne devrais pas questionner ça. L'heure, c'est plutôt à l'action, faut taper fort.
Il faut qu'il y ait des plaintes, des pétitions, des tout ça. Il y a des organismes qui doivent contrôler ça.
Vous leur
retirer un agrément de dictionnaire. Il faut qu'ils se répètent dictionnaire. Alors, j'ai pas de détails juridiques exactement, hein. Mais il faut faire quelque chose.
J'ai l'impression que vous êtes le Jean Moulin qui résiste à l'écriture inclusive.
Oh, Jean Moulin, pas gentil pour moi, ça.
Ah, pardon. Pardon, j'essayais d'être sympa, parce que Jean Moulin, ça me semblait une bonne référence. Mais disons le Charles Maurras, disons. Moi, je veux pas choquer les gens, hein. Voilà, il n'y a pas de problème, désolé. Je fais des erreurs, parce que je suis un peu troublé, mais l'heure est grave. Hein, c'est quoi ?
C'est un danger, c'est absolu, oui, oui. C'est un danger réel.
Et alors, comment un simple pronom peut être un danger pour la France à ce point-là ?
L'inclusive, c'est de réduire la langue française avec la langue parlée, qui ne correspond plus à aucune grammaire, à rien du tout, si ce n'est à un langage de gens qui n'ont aucune culture, qui sont de pays étrangers souvent.
Ah putain, j'avais pas vu venir les étrangers, le coup des étrangers. Là, c'est même plus un raccourci, j'ai l'impression qu'il a coupé à travers champ, en fait. Il n'y avait même pas de rocade. Bon, bah d'accord. Bon, bah les mots inventés, c'est les étrangers. Alors, ceci dit, est-ce que les mots avec lesquels on parle n'ont pas tous été inventés ?
Ah non, les mots avec lesquels on parle sont des mots de racine latine ou grecque, ou éventuellement de la langue anglaise.
Ou arabe ?
Arabe. Ceux qui sont avec des mots arabes, ce sont des gens qui veulent l'écriture inclusive et tout ça.
Oui. Alors, bon, j'ai pas osé lui dire que le mot café, par exemple, c'était un mot arabe, parce que j'avais peur qu'il fasse une petite descente d'organes, ainsi que bougie, guitare. Enfin voilà, ça fait quand même un certain moment que les mots arabes ont grand remplacé les nôtres, hein, il faut le dire aussi. De toute façon, ce grand remplacement des mots, on sait d'où ça vient.
Le féminisme, me rend fou, parce qu'on est en train de mélanger la nature neutre du français, car elle existe, le neutre, et par du féminin, qui veut rien dire du tout.
Mais pourquoi le neutre serait forcément masculin?
C'est l'Académie française, oui. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Les académiciens peuvent avoir confiance en eux.
Oui, on peut avoir confiance hein, aux académiciens. Ce sont des gens qui adorent les femmes, déjà à la base, hein, on le sait, au point de les préserver longtemps de cet endroit. Hein. Donc n'oubliez pas, boycottez le petit Robert en ligne, boycottez le robert.com, le petit Robert dans toutes les librairies, boycottez le petit Robert, pour que la France reste la France. Seigneur, veuillez nous protéger du mal. Ainsi soit-il.
Oh, Guillaume Meurice, mais vraiment, c'est de pire en pire.
Oui, mais c'est des débats de qualité
c'est
aussi.
C'est de pire en pire. Il y a un type qui a cancelé Jean Moulin à la radio.
Ça lui a pas plu, ça a pas plu que je dise Jean Moulin.
Bon, écoutez, heureusement, il paraît que depuis Aymeric Lomprey est arrivé, vous étiez là tout à l'heure, mais
je suis pas depuis le début.
Donc, il sera là dans pas longtemps. Johan Chapoutot, l'historien, est là aussi, donc tout va bien. Et Juliette.
Jean Moulin.
Oui, Juliette a un sujet à vous soumettre.
La COP26 a-t-elle été un succès? Les avis sont au mieux partagés. Que retiendra-t-on d'elle? Le bla 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 de Greta Thunberg. Et oui, les femmes sceptiques, ça existe. Mais aussi les larmes de dépit du président de la négociation, Alok Sharma. Et oui, un homme qui pleure, ça existe aussi. Et puis l'idée qu'il va falloir se préparer. À quoi?
Alors ça a commencé il y a 2 semaines et demie au Venezuela, ça a été fulgurant.
Et depuis 4 jours, il n'y a plus du tout de signal nulle part, même en Russie.
Non mais sérieusement, vous allez croire des infos que vous voyez sur Internet? Non mais j'hallucine.
C'est la fin de l'humanité, hein.
Mais c'est bon, on a Internet, t'es dépressif, toi. C'est une catastrophe naturelle, c'est pas chez nous.
Mais putain, c'est quoi cette gamine?
T'es où? Attends, mais Maëva, mais t'es sur les réseaux sociaux quand même, non?
Bon, stop, écoutez tous. Premièrement, on reste calme, on garde son sang-froid. Et deuxièmement, il va falloir regarder ce qui se passe concrètement à l'extérieur. Alors, qui vient avec moi?
Moi. Je viens.
Non, Victor. Tu as une enfant ici.
Patrice, t'es stérile, du coup ça change rien pour toi. Je peux venir.
C'était Problemos, le film d'Éric Judor. Et on aura entendu Éric Judor, Dorothée Pousséo, Claire Schust, Blanche Gardin et Michel Nabokov. Alors, c'est vous qui nous avez amené ce sujet de la COP26. Alors, on a bien une petite idée de pourquoi vous nous avez proposé ce sujet. Mais pourquoi vous nous avez proposé ce sujet?
Parce que ça engage notre conception du temps. Ça engage notre présence dans le temps. Ça engage également les récits du temps que l'on a développés depuis le 18e siècle en Europe. Le récit du progrès, de l'accumulation, de la croissance, de l'épanouissement, de l'ouverture, etc. Un récit dont on voit bien qu'il ne fonctionne plus, hein, parce qu'il y avait une grande promesse du progrès. Alors, elle a connu quelques accros, hein, quand même,
oui,
entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais en gros, on remet les choses à peu près d'équerre pendant les Trente Glorieuses, où on se dit que le temps qui passe est un temps d'accumulation, un temps de progrès, au sens où on va accumuler du bien-être, des biens, et devenir plus riche, plus vieux, etc. Et on se rend compte que les courbes ont tendance soit à se tasser, soit à s'inverser. Alors, le bien-être, on l'a vu depuis les années 70 avec le chômage de masse et puis cette espèce de récession latente dans les pays occidentaux. Pour ce qui est de l'espérance de vie, on voit que ça commence à chuter. Tout simplement en raison des pollutions accumulées, en raison également des problèmes d'approvisionnement qui peuvent naître maintenant de du dérèglement climatique, hein, plutôt que le réchauffement, parce que le dérèglement climatique, ce n'est pas que du réchauffement, c'est aussi des catastrophes plus fréquentes, c'est aussi des événements majeurs qui se déroulent, c'est parfois des vagues de froid inattendues à certains endroits à certains moments. Donc il vaut mieux parler de dérèglement climatique, ce qui suscite donc une éco-anxiété très clair, dont le petit extrait de film que vous parliez.
Et une potentialité de finitude, ce dont vous traitez pas mal dans le bouquin, c'est-à-dire de ce que c'est que l'eschatologie, c'est-à-dire comme l'idée d'une fin du monde qui est possible. Est-ce que, justement, maintenant qu'on sait qu'il y a une possibilité de finitude assez proche, somme toute, est-ce que ça serait pas le moment de fabriquer
un nouveau récit, une possibilité d'un nouveau récit, d'une nouvelle doctrine pour mener à bien ce combat qui est encore possible, c'est-à-dire le peu qu'il y a à faire, le faire ensemble.
Bah, je pense qu'on le fait à bas bruit, si vous voulez. On l'a vu au moment du premier grand confinement, c'est-à-dire un moment où au fond tous nos contemporains ont été amenés à vivre une vie d'universitaire ou de poète, c'est-à-dire qu'ils ont été enfermés chez eux face à eux-mêmes et face à leurs feuilles blanches, et ils ont été amenés un petit peu à cogiter sur le sens de leur vie et de leur activité. Donc ils ont arrêté de courir et ils ont commencé à réfléchir en masse. Et les vies se réinventent à bas bruit. Au niveau micro, si vous voulez, au ras du sol. Moi, s'il y avait peut-être une petite leçon à tirer de tout ça, c'est de prendre congé des grands récits, justement, de tout ce qui est grand, de tout ce qui a trait à la grandeur ou au macro, sans jeu de mots d'ailleurs, et revenir au fond à une vie humaine et construire du sens soi-même, avec ses amis, avec sa famille, au niveau individuel. Alors, cultiver son jardin. Mais cultiver son jardin en n'étant pas solitaire, parce que c'est pas possible, un être humain.
Oui, un peu de collectif.
Ça,
quand
c'est
même.
Soit une bête ou un dieu, hein, dit Aristote, hein, le solitaire. Non, mais en étant solidaire, pour le coup.
Johan Chapoutot, on va passer à ce sujet. Ah, mais non, il y a Aymeric Lomprey.
Elle est méchante!
Aymeric Lomprey! Il vient de Lille, en plus.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Ouais!
Bonjour, bien entendu! Oh là là, moi je suis énervé aujourd'hui. Oh là là, je suis remonté comme une pendule. Non, dans le train, en rentrant de tournée, j'ai regardé le débat de la primaire de la droite. Putain, l'enfer. T'sais, à mon avis, même les gens de droite, ils sont devenus de gauche, quoi. T'sais, moi, je me suis radicalisé pendant le trajet. Hein. Je suis parti de Marseille, j'étais en jean dans la première classe. Je suis arrivé à Paris, j'étais en Sarwell dans un Ouigo. T'sais, j'arrivais envie de taper tout ce qui représente la droite. Tiens, une boutique Rolet. Bim. Ah, il faut que je me détende. Allez, je pense à autre chose. Imagine, Aymeric, t'es dans une baignoire remplie de morbier, et il y a un fromager qui me demande si j'en veux encore. Après, il va en chercher, il ouvre la porte, et derrière, il y a une treilleuse. Mais c'est pas une vache, c'est Charline, et... Non, vous inquiétez pas, non, mais la chronique est bientôt finie. La chronique... Ah bah non, tiens, il reste encore deux pages. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ça dénonce, hein. Là, je vais dénoncer. Ah. Là, ça va dénoncer. Ah. Ça va, à la fête de France Inter, c'est Guillaume qui a remplacé les pilules du lendemain par les tic-tac. Eh, vivement le prochain bouquin de Juliette, comment j'ai enfanté d'un monstre. Désolé, Juju, je résiste pas à la laine fraîche. Allez, la chronique. Bon, il y a 10% de logements vacants en France. C'est 10 fois plus que le nombre de SDF. Bim, bam, boum, 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 bam, bam, bam. Alors attention, je ne parle pas des résidences secondaires. Je vois déjà tous les gens du bassin d'Arcachon qui sont là. Il est hors de question que je loue ma maison à ces fripons. Ma villa Huitria, je l'occupe une fois par an et c'est très bien comme ça. Mais vous savez, Enguerrand Charles Philippe, qu'il y a du positif à louer votre maison à ces nécessiteux. Mais enfin, je ne vois pas ce que vous voulez dire, Marie-Christine, Sylvie, Marie-Christine. Eh bien, mon petit Enguerrand Charles Philippe. Je vous arrête tout de suite, Marie-Christine, Sylvie, Marie. Oui, Enguerrand Philippe, je m'appelle Bernard. Oui, je sais, mais c'est Aymeric Lomprey, qui fait exprès pour les droits d'auteur. Alors, revenons à nos moutons. Si vous hébergez des pauvres, vous n'aurez plus de problème avec les rats. Mais enfin, mais pourquoi? Parce qu'il y en aura déjà. Avec mes droits d'auteur, je vais m'offrir une place pour le spectacle de Guillaume. J'en rajoute parce que c'est très cher son spectacle. Allez, la chronique, c'est parti. Non, mais là, je parle pas des résidences secondaires, mais des logements vacants qu'on pourrait utiliser pour loger des êtres humains, toi, par exemple. Il y en a 3 millions en France. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens de loger plein de gens. Et j'ai mené mon enquête avec une pipe et un impair. La grande majorité des logements vacants se trouvent dans le Grand Est. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais, ça va, on va pas commencer à faire les fines bouches non plus les clodos, hein. Eh, vous préférez quoi? Habiter sous une tente à 0 degré Gare de Lyon ou au chaud à Charleville-Mézières? Putain, c'est dur comme question. Non, mais j'ai même trouvé une ville où il y a 100% de logements vacants. Alors, je propose qu'on la réquisitionne pour offrir un logement à tous les SDF. Alors, la ville s'appelle Cumières-le-Mort-Homme. C'est un vrai nom. Au début, ils voulaient l'appeler Cassez-vous, ça pue de la bite. Mais à l'époque, c'était déjà pris par Le Havre. Après, Le Havre, ils ont changé parce que Édouard Philippe est arrivé. Alors, ça fait des doublons. Et, donc, avis à Charleville-Mézières, le nom est libre. Hein. Alors, cette ville se trouve dans la Meuse. Il y a zéro habitant, vous avez vu, c'est super. Hein. Quand tu vas l'acheter du pain, il n'y a pas de queue. Ça, c'est cool. Le truc qui est chiant, c'est que quand t'as fini de pas faire la queue, il n'y a pas de pain. Mais les SDF, ils vont être là dans le village toute la journée, ils vont s'échanger une pièce comme ça. Salut, t'as pas une pièce? Bah si, tiens. 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 T'as pas une pièce? T'as pas... On est bon, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi voir Guillaume Meurice? J'ai de quoi prendre deux places. Merci d'avoir écouté.
J'irai vous voir quand même, Émeric Lomprey. Vous merci. Revoir, je vous ai déjà vu. Oui. C'est formidable. Merci.
Je joue à Genève demain.
Ah, tiens. Comme par hasard. Ouais. Merci, Émeric. Johan Chapoutot, voici ce dernier sujet. Vu le taux de chômage, plus les crises de vocation depuis la première vague, égale un tsunami de CV. Alors, comment faire pour se distinguer des autres curriculums? Un chercheur d'emploi s'est vu félicité par Bruno Le Maire pour avoir déguisé son CV en PV collé sur la bagnole d'un patron. Il a bien sûr été engagé pour son geste créatif. Pour les autres, il reste OpenOffice, Word ou la corbeille à papier du bureau de la direction.
Eh bien, mes principales compétences, c'est je mets la bonne ambiance. Michel, c'est le Brésil, il lance la samba. Il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Michel, c'est le Brésil pour vendre les Velux.
Ça n'arrive toujours pas, mais je vais y travailler.
C'est un petit conseil qu'on vous donne. Pour se distinguer, c'est par le palmacho. Il y a un passage dans votre ouvrage sur un peu l'ineptie de la lettre de motivation. Pourquoi est-ce que la lettre et le CV, c'est le récit de soi, c'est le roman national à hauteur individuelle?
Oui, bah comme les réseaux sociaux ou les profils Instagram ou Facebook, etc. Ce qui est désespérant dans les lettres de motivation et les CV, c'est la peur qui suinte de tout ça et qui induit une standardisation et une volonté de se conformer aux attentes supposées de ceux qui vont vous lire. Mais là, je me suis fondé sur pour ce passage sur l'aide de motivation, sur un excellent livre de Julien Prévieux qui avait été édité par Grégoire Chamaillou aux éditions Zone, qui est un livre de parodie, de pastiche de l'aide de motivation. Et vraiment, ça a hurlé de rire.
Mm-hmm. C'est-à-dire de dire qu'on n'est pas intéressé par l'emploi, c'était ça le but.
Exactement, ouais. Exactement. Ce qui m'amène à dire que c'est l'humour qui sauve le monde et que vous devrez être remboursé par la Sécu.
J'espère que Pascal Proulx vous entend pas. Hein. Déjà, la redevance, il veut pas, mais alors la sécu en plus, vous voulez le payer, vous voulez le tuer, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un appel au meurtre, Pascal Proulx. Carrément, sur notre antenne, comme ça. Et alors moi, en tant que responsable éditorial, je dis non. C'est le moment, avec la lettre de motivation, où on fait de la langue de bois, finalement, comme les politiques, du bullshit, un petit peu, on s'autorise ça, finalement.
Oui, et j'ai rapproché ça des études qu'avait faites Nicolas Vert, le grand historien du stalinisme, sur les CV et les autobiographies rédigées obligatoirement par ceux qui voulaient adhérer au Parti communiste de l'Union soviétique sous Staline dans les années 30. Et on retrouve à peu près les mêmes qualités dans cette littérature à l'époque et les CV, la motivation aujourd'hui. Conformisme, standardisation et arasement de toute originalité et surtout aussi proclamation d'enthousiasme complètement fausse.
Et voilà. Et donc dans le grand récit, vous parlez autant des grands récits, même autant du Troisième Reich que les récits qui nous touchent au quotidien, finalement, Johan Chapoutot. Et pour cela, d'ailleurs, aussi, pour plein d'autres questions, Juliette Arnaud a préparé un questionnaire de Parjupi Proust.
Sur l'échelle des historiens les plus célèbres sortis du lycée Henri IV, 17 ans Yvan Jablonka, 0 étant Patrick Bruel, qui est beaucoup de choses, mais pas historien, à combien vous situez-vous?
Oh, 5.
C'est bien, c'est raisonnable. Ouais, vous avez fait le lycée Henri IV, vous avez fait Sciences Po, vous êtes agrégé d'histoire, vous avez fait Normal Sup, vous êtes d'accord, mais en karaoké, vous êtes bon?
Ça dépend quel type de musique.
Ok, prouvez-le.
Il n'y a pas. Il n'y a pas d'écran. Pas
mal. Ok, je vous crois. Ouais. Je vais vous croire. Mettons. Quel discours politique auriez-vous aimé dire? Entre ici Jean Moulin ou I have a dream ou alors on n'attend pas Patrick?
Non, mais le discours de la maison brûle, là, c'était bien.
Ah, ça vous seriez bien vu. Ok. Ouais. Quel est le cliché ou l'approximation sur Hitler qui vous agace le plus? Qu'il était un peintre raté, qu'il était végétarien ou qu'il était atteint de cryptorchidie? Il était monotone.
Oh, bah, qu'il était végétarien.
Il avait qu'une coupe.
Ce qui n'est pas vrai en plus. Ce qui n'est pas vrai.
C'est ce qu'on dit.
Oui, c'est vrai.
Vous aimez l'histoire, bien sûr, mais la littérature aussi, sans oublier les maths. Mais c'est l'heure du dilemme horrible. Quelle matière sacrifiez-vous?
Aucune, en fait.
Oh, dites, si, c'est un dilemme horrible.
C'est le jeu. Hein,
non, mais j'ai une curiosité assez universelle. Je suis pas très bon dans voilà, mais je j'aime bien tout.
De toute façon, vous dites que pour ces trois matières, il faut la même qualité qui est l'intuition.
Oui, ça, et l'empathie, et puis le raisonnement logique, et puis la précision.
Vous avez la DeLorean, vous savez, la voiture pour aller dans le futur ou dans le passé, pour une heure, vous retournez dans quelle période d'histoire pour vérifier quel petit truc ou pour assister à quel grand truc?
Voilà, c'est difficile. premier siècle de notre ère, romantique, pour voir si la maison de Romulus est bien toujours présente. Elle était cultivée par les Romains, ils avaient entretenu une espèce de cabane de bois au cœur du Capitole, du Palatin, pour rappeler leurs origines, donc j'aurais aimé aller voir ça.
Checké.
Oui.
Merci Juliette Arnaud pour ce questionnaire et merci beaucoup Johann Chapoutot, on était ravis de vous accueillir et on recommande vraiment chaleureusement votre livre qui s'intitule, je le rappelle, Le Grand Récit, introduction à l'histoire de notre temps. Paru au PUF, Presse Universitaire de France. Merci beaucoup, Johan. Je vous dis à tout le monde à demain, mais j'ai le plaisir de laisser les manettes de l'émission à Juliette et Alex. Je vais me reposer un petit peu sur ces bonnes audiences.
Vive le service public, vive
facilement achetable.